Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Céline Guillaume.
Bonjour à toutes et à tous. Avoir un rapport sexuel non protégé nous expose aux infections sexuellement transmissibles. Les IST, elles sont globalement en hausse depuis environ 10 ans, en résurgence même pour la syphilis, de retour en Europe depuis le début des années 2000. L'OMS tire la sonnette d'alarme avec ce chiffre, 1 million de nouveaux cas chaque jour dans le monde. L'heure est à la prise de conscience et au changement ou ajustement de comportement pour éviter de contracter la chlamydia, la gonorrhée, l'hépatite B, l'herpès génital ou le VIH. Et la liste continue. Alors oui, il y a des traitements adaptés. Encore faut-il se faire dépister. Là est l'enjeu. Bon nombre d'IST sont asymptomatiques. Certaines ont des conséquences dramatiques. Un seul mot, le préservatif. Nous parlons aujourd'hui des infections sexuellement transmissibles avec le docteur Jean-Marc Bobotte. Bonjour docteur.
Oui, bonjour.
Vous êtes infectiologue et andrologue, responsable de l'unité génitale et directeur médical de l'Institut Alfred Fournier à Paris. Nous accueillerons un peu plus loin dans l'émission le professeur Adama Traoré, chef du service dermatologie et vénérologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. Vos messages sont bien évidemment les bienvenus et vos questions aussi. Je vous redonne notre numéro de téléphone pour arriver jusqu'à nous, le 00 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Bobotte, sommes-nous cernés par les IST? À côté du VIH, la liste des autres infections est assez conséquente.
Oui, bien sûr. Et j'aurais aimé ne pas commencer cette émission comme je l'ai commencé les années précédentes, en vous disant que finalement nous sommes en pleine augmentation de ces infections, parce que quand même on a des moyens de diagnostic, on a des traitements, mais ce qui ne marche pas, c'est la prévention. Donc plus que jamais, il faut faire passer absolument un message de prévention. Toutes ces maladies sont évitables.
C'est ma prochaine question. Ces IST sont à la hausse. Est-ce que c'est le corps médical et professionnel qui n'ont pas réussi à faire passer ces messages de prévention, comme vous le suggérez? Ou est-ce qu'aussi nous, le public, nous n'avons pas eu envie de les entendre? Est-ce que nous avions aussi une envie d'insouciance?
J'allais vous dire un petit peu les deux. C'est-à-dire que peut-être que le discours de prévention, c'est un discours qui a été asséné pendant des années. On a parlé préservatif, préservatif, préservatif. Peut-être que les gens avaient un peu assez d'entendre ce message. Et puis, comme vous le dites, avaient peut-être des envies de liberté. Et puis, on n'a peut-être pas non plus suffisamment insisté sur ce qui pouvait transmettre la maladie, c'est-à-dire sur les moyens de contracter les IST. Et en particulier, dire que certains rapports sexuels qui sont considérés, entre guillemets, mais généralement comme des préliminaires, je veux parler par exemple de la fellation, sont des pratiques à risque absolu. On peut attraper toutes ces infections. Donc, probablement qu'on a fait une impasse sur ce message ou qu'il a été mal perçu.
Je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans les modes de contamination. Vous venez de le dire, la fellation aussi, c'est un comportement sexuel dit à risque, tout comme
toutes les pénétrations. À partir du moment, pour parler crûment, à partir du moment où un homme met son sexe dans un vagin, dans un anus ou dans une bouche, il y a un risque de transmission dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que moi, c'est évident que les hommes qui viennent me voir à l'heure actuelle et qui ont des blénorragies, des gonocoxies, eh bien majoritairement, ils ont contracté ça à la suite de fellation. Et quand on les interroge, ils nous disent moi je protège tous mes rapports, mais pas les fellations. Et donc évidemment le message n'est pas passé.
Donc l'information était méconnue.
Oui, l'information était méconnue ou elle est passée inaperçue, mais en tout état de cause. Alors, même si je sais que c'est pas très drôle de faire une fellation ou de se faire faire une fellation avec un préservatif, écoutez, il vaut mieux ça qu'attraper une infection.
Qu'être malade. Est-ce que le peau à peau peut être un mode de transmission?
Alors, c'est valable pour des infections qui se manifestent par des lésions cutanées, en particulier la syphilis, le chancre mou, l'herpès, et c'est évidemment c'est des contacts de peau à peau avec des peaux lésées, avec des lésions qui va transmettre la maladie.
Lorsque la peau n'est pas saine, alors.
Exactement.
Uniquement dans ce cas-là. Et peau à muqueuse, bien évidemment, là
oui,
aussi.
Exactement la même chose.
Nous allons accueillir notre premier auditeur. Il s'agit de Charles à Abidjan. Bonjour Charles. Bienvenue dans Priorité Santé.
Oui, bonjour.
Le docteur Bobot est avec nous. Nous vous écoutons, Charles.
D'accord. Alors, moi, j'ai fait 10 ans. J'ai fait 10 ans avant de faire ma deuxième fille. Alors, c'est à la suite d'un traitement de IST qu'elle a pu contracter la grossesse. Alors, avant ça, j'avais eu une infection il y a 2 ans de chancron que je traitais. Alors, ma question, c'est est-ce que les IST en général peuvent jouer ou jouent sur la fertilité? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, quel genre de IST une femme peut éventuellement contracter lorsqu'elle va dans les toilettes publiques?
Donc vous vous inquiétez des possibilités de continuer, d'avoir un prochain enfant, pourquoi pas?
Oui, alors Charles, vous avez raison, c'est une très bonne question. Effectivement, les infections sexuellement transmissibles, en tout cas certaines d'entre elles, sont des responsables majeurs de problèmes de fertilité, aussi bien chez l'homme, parce que ça peut atteindre le sperme, que chez la femme. Et donc en particulier, des infections comme chlamydia, des infections comme la gonococcie, sont des infections, et puis un microbe que l'on connaît un petit peu mieux depuis quelques temps, qui s'appelle Mycoplasma genitalium, sont parfaitement susceptibles d'altérer la qualité de votre sperme, ou tout simplement d'atteindre l'utérus et les trompes chez la femme. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir enfanter. Et en tout cas, même si les traitements antibiotiques donnent des résultats qui sont souvent intéressants, il peut y avoir des cas où, malheureusement, les antibiotiques ne suffisent pas. Quand on a trop attendu pour faire le diagnostic, eh bien, les trompes, en particulier chez la femme, peuvent se boucher de manière quasi irrémédiable. D'où l'intérêt, encore une fois, de consulter au moindre symptômes et même quand on n'a pas de symptômes, quand on a des doutes, de faire des analyses.
Mais pour le cas précis de Charles, où il y a eu consultation, traitement, Charles, vous êtes inquiet sur cette possibilité de pouvoir être à nouveau papa, avoir un autre enfant, c'est bien ça?
Oui,
pour la suite, que suggérez-vous, docteur Bobot? Pourquoi aller consulter pour voir si tout fonctionne bien?
À l'évidence, ça fonctionne bien.
S'il y a des séquelles ou pas?
Puisque là, effectivement, Charles vient d'avoir un enfant, donc ça veut dire que ce soit chez sa femme ou chez lui, ça veut dire que là, pour l'instant, les problèmes sont derrière lui. Donc, il n'y a pas de souci particulier à se faire. Si vous avez réussi à faire un enfant, il n'y a pas de raison de pouvoir en faire d'autres.
Voilà. Et sur cette question de la possibilité d'attraper une IST dans les toilettes public.
Oui, alors ça, c'est un serpent de mer. Effectivement, on ne peut pas attraper d'infection sexuellement transmissible sur les toilettes publiques ou alors dans des conditions très particulières. Et en tout cas, ce n'est certainement pas le moyen le plus simple pour attraper une IST. Les IST, malheureusement, elles ne s'attrapent que par contact sexuel. Et donc, les toilettes publiques ne sont pas en cause.
Ça vous rassure, Charles?
Ça m'est rassuré. Merci.
Merci à vous.
Au revoir, Charles.
Au revoir. Quasiment plus aucun cas de syphilis n'était diagnostiqué en Europe entre la fin des années 90 et le début des années 2000.
Oui.
Qu'est-ce qui explique cette résurgence? Pourquoi le retour de la syphilis?
Tout simplement parce qu'il n'y a aucune maladie qui disparaît complètement. Il y a toujours quelques cas qui peuvent persister. Et à partir de là, s'il y a un relâchement, il y a ce qu'on appelle des clusters. Donc, on le connaît bien avec le Covid.
On
sait bien ça. C'est-à-dire qu'à partir de un ou deux cas particuliers, si c'est dans une communauté où les gens ne se protègent pas, ça peut très, très facilement se répandre. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec la syphilis. C'est-à-dire qu'à partir de foyers isolés, eh bien, il y a eu un manque de protection qui a fait que la syphilis s'est remise à exploser, effectivement, depuis 10 à 15 ans.
Quels sont les symptômes de cette IST?
Alors, la syphilis, au siècle dernier, et même il y a 2 siècles, on appelait ça la grande simulatrice. C'est-à-dire que ça donne des symptômes extrêmement divers. D'abord, il faut savoir que souvent, ça donne des boutons, en particulier à ce qu'on appelle un chancre, au niveau des organes génitaux. Mais comme ce chancre ne fait pas mal, bien souvent, les hommes ou les femmes ne consultent pas. Et puis, il faut savoir aussi que ce chancre, il peut être caché. Comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des chancres qui surviennent au niveau de la gorge. Et là, comme ils font pas mal, on s'en rend pas compte. Il peut y avoir des chancres au niveau anal. Et là aussi, comme il fait pas mal, on s'en rend pas compte. Et puis, il peut y avoir des chancres à l'intérieur du vagin. Donc, ces lésions qui sont indolores, elles provoquent bien évidemment un retard à la consultation et un retard au traitement. Donc, à chaque fois que l'on constate un bouton sur les organes génitaux, même si ça fait pas mal, même si on a l'impression que ça va guérir, première des choses, on met pas n'importe quoi dessus. On se précipite pas sur l'armoire à pharmacie pour mettre n'importe quel traitement, n'importe quelle crème. On prend pas d'antibiotiques tout seul, on va tout de suite voir son médecin. À l'heure actuelle, avec la syphilis, on a des tests rapides, ça s'appelle les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique. C'est juste une petite piqûre au bout du doigt. Et donc, ça commence à être diffusé maintenant dans le monde entier. Et on a la réponse en l'espace d'un quart d'heure.
Donc, très, très rapidement. Nous allons accueillir Moussa sur notre antenne à Bangui. Bonjour, Moussa.
Oui, bonjour, madame.
Bienvenue.
Bonjour,
Moussa. Bienvenue, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Oui.
Nous vous écoutons.
Donc, moi, c'était lors d'une consultation prénatale de ma femme. Elle a été, pour la première fois, testée positive à la syphilis. Et ce qui a créé une tension entre nous. Et pour vérification, je suis parti dans le même centre faire mon test de syphilis, ce qui s'est avéré négatif. Et la femme, je l'ai amené au niveau de la laboratoire national. J'ai fait son test et ça a révélé aussi négatif. Entre temps, on l'a prescrit l'extensérine où on a injecté, c'était en 2 mois de sa grossesse. Et quand c'est avéré négatif, je me pose la question de savoir est-ce que le fait de lui injecter avec l'extensérine, ça pourrait avoir un effet sur l'enfant, comme la femme est déjà accouchée, il y a de cela près de 2 mois. Est-ce que dans l'avenir, l'enfant peut avoir un effet par rapport à l'injection qu'on a fait? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, hormis les rapports sexuels, est-ce qu'il y a d'autres formes de transmission de la syphilis?
Alors, pour répondre à votre question, je vais vous rassurer tout de suite, l'extensiline ne va poser aucun problème à l'enfant. Tout simplement parce que quand il y a vraiment une syphilis, le traitement qu'on fait chez les femmes enceintes, c'est justement l'extensiline, d'une part pour guérir la mère et d'autre part pour que cet antibiotique puisse passer à travers le placenta pour aller guérir une éventuelle infection du bébé tant qu'il est dans le ventre de sa mère. Donc, c'est un traitement qui est absolument safe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème et votre enfant ne risque strictement rien. Et puis pour répondre à votre deuxième question, comme je l'ai dit tout à l'heure, la syphilis se contracte exclusivement par rapport sexuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez la femme enceinte, on a parfois des résultats d'analyse qui reviennent faussement positifs. Parce que quand la femme est enceinte, elle développe un certain nombre de substances dans son corps qui peuvent interférer avec le test. C'est pour ça que quand on a un test positif, souvent on le répète un petit peu plus tard. On peut parfaitement traiter la syphilis, même avec 15 jours de retard, c'est pas grave, pour vérifier s'il s'agit vraiment d'un test de syphilis positif ou si c'est un faux test positif. Mais même là, dans le cas de votre femme, Moussa, vous pouvez être rassuré, elle a eu son traitement par précaution, mais l'enfant ne risque rien du tout.
Et il va bien aujourd'hui, Moussa, votre enfant?
Oui, il va bien, l'enfant.
Comment s'appelle-t-il? Son prénom?
Il s'appelle Adam.
Adam. Bon, vous souhaite beaucoup de bonheur avec Adam. Merci Moussa.
Ok, merci
beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Docteur Bobot, ça m'amène à cette question. Quelles sont les IST transmissibles au fœtus? Est-ce qu'elles sont nombreuses? Parce qu'elles existent aussi.
Bien sûr. Donc la syphilis, on vient de le dire. Alors, pendant la grossesse, grosso modo, il y a la syphilis, les hépatites qui peuvent se transmettre. Mais c'est surtout au moment de l'accouchement qu'il y a un risque. Parce que quand il y a un microbe au niveau du vagin, au moment de l'accouchement, le bébé va passer par le vagin et risque de s'infecter. Donc c'est valable pour la gonococcie, c'est valable pour les infections à chlamydia, c'est valable pour le papillomavirus. Donc ces infections, elles sont essentiellement dangereuses pour l'enfant au moment de l'accouchement. Mais pendant la grossesse, c'est essentiellement la syphilis et les hépatites.
Donc à surveiller là encore.
C'est pour ça qu'il y a des tests systématiques chez les femmes enceintes et des prises de sang pour vérifier la syphilis bien sûr et les hépatites.
J'aimerais qu'on parle de l'herpès génital. Il y a d'ailleurs une petite note vocale qui va y faire référence. Est-ce qu'il y a un lien entre l'herpès labial et l'herpès génital ou est-ce totalement déconnecté?
Alors, on avait l'habitude de dire que c'était deux virus différents. qui s'appelle l'un pour l'herpès buccal HSV1 et l'autre pour l'herpès génital HSV2. Mais comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises dans cette émission, étant donné qu'il y a des rapports orogénitaux, des fellations ou des cunnilingus, on peut parfaitement imaginer que une femme qui va faire une fellation à un monsieur, et si cette femme a de l'herpès buccal, elle va transmettre cet herpès buccal au niveau génital. De même que si un monsieur fait un cunnilingus, s'il va embrasser le sexe de sa partenaire et s'il a un bouton de fièvre à ce moment-là, le bouton de fièvre c'est la manifestation de l'herpès buccal, il peut provoquer, transmettre le virus qui là va se développer au niveau génital. Donc à l'heure actuelle, on sait que on a un herpès buccal, bien souvent on l'a jamais attrapé par rapport sexuel, mais l'herpès génital on peut l'avoir attrapé soit par un rapport génital, soit par un rapport oral.
On va écouter Aimé qui se trouve à Lomé au Togo.
Bonjour Céline, je suis Aimé, j'ai 34 ans, je vis à Lomé. Alors ma question concerne l'herpès génital, un mal dont je souffre depuis 3 ans. Je suis passé par plusieurs traitements sans avoir de résultats positifs. Selon mon dernier médecin, c'est un mal qui ne se traite pas, un mal qu'on ne peut pas guérir. Alors, j'aimerais d'abord savoir si c'est vrai qu'il n'y a pas de remède pour guérir ce mal. Et si ce n'est pas le cas, quel est le traitement adéquat à suivre pour guérir de ce mal? Maintenant, la deuxième question, j'aimerais savoir s'il y a un lien entre l'herpès génital et l'herpès qu'on a après avoir fait le palu, c'est-à-dire les boutons qui apparaissent autour de la bouche, du nez, quand on fait le palu. Merci.
On a répondu à la deuxième question, hein, d'Aimé. Oui. Peut-être pour nous répondre à la première.
Oui, alors effectivement, le médecin d'Aimé a raison, il n'y a pas de traitement. On ne peut pas guérir de l'herpès, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éradiquer le virus. Hein. C'est un virus que l'on contracte par rapport sexuel, on vient de le dire. Donc il n'y a pas de traitement définitif. En revanche, on a un médicament qui est un médicament antiviral qui s'appelle le valacyclovir. Dans d'autres pays, donc, on a l'acyclovir, qui sont des médicaments qui sont très efficaces vis-à-vis de l'herpès. Et donc, il y a deux manières de gérer la situation. Soit on a affaire à quelqu'un qui fait très peu de poussées d'herpès, qui en fait 2 ou 3 par an, auquel cas, il faut simplement qu'il ait toujours chez lui les comprimés à prendre. Et dès qu'il a les premiers symptômes de la poussée d'herpès, il prend son médicament pendant 5 jours et ça va permettre une cicatrisation rapide. Soit il fait beaucoup de poussées d'herpès par an, c'est un consensus international, on dit plus de 6 par an, auquel cas on peut faire ce qu'on appelle un traitement préventif et donc il faut prendre un comprimé par jour de valacyclovir pendant 6 mois, pendant 1 an et pendant tout le temps où on prendra ce médicament on fera pas de poussées d'herpès.
Un traitement de fond.
Voilà, c'est un traitement de fond, c'est un traitement préventif qui ne guérit pas, mais qui permet aux patients, parce que ça gâche un peu la vie, hein, il faut bien le reconnaître, de faire des poussées en permanence. Et donc, ça permet à ce patient, au moins, d'être tranquille pendant 6 mois, 1 an.
On en sait plus sur l'herpès. Dans un instant, on parle des complications à redouter si on n'est ni dépisté, ni pris en charge pour une IST.
Thank you.
cœur de l'émission Priorité Santé à l'instant Sainte-Trophie avec Africa. Le docteur Bobot, infectiologue et andrologue, nous accompagne dans ce rendez-vous consacré aux IST. Docteur, y a-t-il une tranche d'âge plus touchée qu'une autre par ces IST?
Tout le monde peut être touché par les IST, hein, donc il ne faut pas se croire à l'abri. Simplement, à partir du moment où on a des rapports sexuels non protégés, on a des risques, ça c'est certain, surtout quand on a de nouveaux partenaires. Mais c'est vrai que c'est quand même les jeunes qui sont touchés, la tranche d'âge entre 17 et 35 ans, c'est là où on voit le plus d'infections sexuellement transmissibles.
J'ai lu que les seniors, parfois, lorsqu'ils ont été mariés longtemps, avec un partenaire, une relation exclusive, après un divorce, avaient beaucoup de mal à utiliser le préservatif. Est-ce que ça, lors de vos échanges, vos consultations, vous avez ces discussions-là avec ce public-là?
Oui, parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est quand même une génération qui n'a pas connu le préservatif, enfin c'est pas de la génération SIDA. Donc effectivement, ce sont des seniors et pour eux, c'est pas du tout évident de porter un préservatif. Donc effectivement, on a un deuxième pic de toutes ces femmes, parce qu'il n'y a pas que les hommes et les hommes qui se pensent à l'abri, qui se disent oui, ben j'ai un rapport avec un nouveau partenaire, ce partenaire il a le même âge que moi, donc voilà, on a fait notre vie, il n'y a pas de problème. Bah si, il y a des problèmes, et donc il m'arrive de voir des patients qui ont plus de 80 ans et qui viennent avec des infections qui viennent de contracter. Donc il faut être très prudent à tout âge.
C'est le problème de tous, non dépistés, non pris en charge. Donc quelles peuvent être les complications à redouter?
Alors, il y a deux types de complications majeures. C'est bien évidemment donc la stérilité. On en a parlé déjà tout à l'heure. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une atteinte des organes profonds, la prostate, les testicules chez l'homme. Et il peut y avoir aussi chez la femme l'atteinte des trompes. C'est qui sont donc les petits organes qui vont mener l'ovule jusqu'à la rencontre du spermatozoïde. Si ces trompes sont bouchées, il y a une stérilité. Donc, stérilité. Et puis, deuxième facteur d'aggravation.
Des conséquences difficiles.
Ah oui, parce que c'est des traitements, on peut en guérir, mais parfois on peut pas en guérir, et donc il faut passer à des fécondations in vitro, etc. C'est compliqué, hein, et ça coûte très cher. Et puis la deuxième complication, c'est les cancers. On sait par exemple que le papillomavirus, pour vous donner un chiffre, papillomavirus tue trois femmes par jour en France. Trois femmes par jour en France, par cancer du col de l'utérus, mais aussi cancer de l'anus et cancer de la gorge. Donc c'est un virus à l'heure actuelle, on a un vaccin, malheureusement en France le vaccin est assez mal distribué, en tout cas il y a assez peu de, pas suffisamment de femmes qui le font, et pas suffisamment d'hommes, donc il y a un risque. On sait aussi que les hépatites, quand elles sont pas traitées, ça peut donner des hépatites chroniques, en particulier l'hépatite B et l'hépatite C, qui peuvent évoluer vers un cancer du foie. Encore une fois, le dépistage avant d'arriver à ces catastrophes, d'autant plus que, comme vous l'avez dit en préambule, beaucoup de ces infections au départ donnent très peu de symptômes. Donc les gens sont pas inquiets et ils vont utiliser n'importe quel produit qu'ils ont sous la main pour se traiter, et ça c'est dangereux.
On va accueillir David à Bukavu. Bonjour David.
Bonjour madame.
Bienvenue dans Priorité Santé, nous vous écoutons.
Oui, madame, je voulais juste savoir si on peut attraper une infection sexuellement transmissible au niveau oral, car j'ai une partenaire qui a toujours voulu que je fasse les caresses au niveau de son sexe avec ma langue. C'est juste savoir si on peut attraper cette maladie
On a bien compris, David. On y a répondu tout à l'heure, mais on va le faire à nouveau avec plaisir, parce que l'information, elle est essentielle.
Absolument. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de risques pour un cunnilingus, c'est-à-dire pour embrasser le sexe féminin, qu'avec la fellation, parce qu'il n'y a pas de pénétration. Mais par contre, il est évident que si votre femme ou si votre partenaire a une lésion comme la syphilis ou une infection comme l'herpès, c'est-à-dire des lésions qui peuvent être présentes au niveau de la vulve, c'est-à-dire au niveau des organes génitaux externes, bien sûr qu'il y a un risque de contamination. Pour d'autres maladies comme la chlamydia ou le gonocoque, le risque est pratiquement nul. Mais encore une fois, pour l'herpès, pour la syphilis, pour le papillomavirus, il y a un risque effectivement de ce type de rapport sexuel.
Et permettez-moi, docteur Bobot, là par contre on n'a pas de solution, on n'a pas de préservatif pour cette pratique.
Non, on n'a pas de préservatif.
Donc on s'abstient.
Mais la question, c'est que avant d'embrasser le sexe d'une femme, faut quand même regarder s'il n'y a pas des lésions.
D'accord.
Voilà. Et donc la femme aussi doit prendre des précautions. Et si elle voit qu'elle a quelque chose d'anormal, un petit bouton, une petite plaie au niveau des organes génitaux, ben il faut consulter rapidement et puis stopper les rapports sexuels jusqu'au moment où on aura fait un diagnostic.
Donc s'examiner dans un premier temps pour voir s'il n'y a aucune lésion.
Voilà. Et surtout ne pas faire n'importe quoi. Et moi je pense surtout à ces méthodes d'hygiène qui sont un petit peu difficiles, de ces femmes qui, sous prétexte de tradition, se mettent des décoctions d'herbes, parfois même des pierres à l'intérieur du vagin pour assécher le vagin quand elles ont des pertes. Et ça, c'est une catastrophe. Encore une fois, le vagin est un organe auto-nettoyant, c'est-à-dire que quand il y a des microbes dedans, bah, si tout se passe bien, bah, il peut y avoir une élimination spontanée de ces microbes. Et si on abîme le vagin avec ces techniques d'hygiène qui sont absolument pas adaptées, on risque de développer une vraie infection.
Voilà, David. Donc, examinez, enfin, votre partenaire s'examine bien, correctement, voilà. Minutieusement, et a priori, on y va.
Et il n'y aura pas de problème.
Il n'y aura pas de problème. Voilà, David. Merci.
Ok, merci, madame.
Merci. À très bientôt. Quand on a été dépisté positif à une IST, l'un des premiers réflexes à avoir, c'est aussi de prévenir son ou sa partenaire, ou ses partenaires. Son, sa ou ses partenaires.
Bah, vous avez tout à fait raison. Une infection sexuellement transmissible, c'est une infection qui s'attrape à deux ou à plusieurs. Une infection sexuellement transmissible, ça doit se soigner à deux ou à plusieurs. Et encore une fois, il y a beaucoup d'hommes que je vois qui viennent, quand ils viennent, en disant, ouais, c'est ma partenaire qui m'envoie, mais moi je sens rien, donc j'ai rien. Ça, c'est typiquement masculin, hein. C'est, j'ai pas de symptômes, donc je suis pas
c'est
malade.
C'est vous qui l'avez dit. Hein.
Oui, mais non, mais j'assume complètement. Les femmes sont souvent beaucoup plus responsables que les hommes dans ce domaine-là. Et puis, quand on dit aux hommes qu'ils risquent d'avoir quelque chose, s'ils ressentent rien, ils ont l'impression que c'est une atteinte à leur virilité, à leur dignité d'homme. Ben non, c'est tout simplement une question de bon sens. Quand on a une partenaire qui a une infection, ben, il faut se faire dépister. Et là, très souvent, on découvre l'infection, même s'il n'y a pas de symptômes. Et plus vite on sera dépisté, plus le traitement sera simple et moins on aura de risques de complications.
Et mieux ça se passera. Je pense que cette question est attendue, docteur Bobot. Le Covid-19, IST ?
Non, le Covid-19 ne se transmet pas par rapport sexuel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, parce que quand on est en situation de rapport sexuel, bien évidemment, on perd un petit peu la distance de sécurité. Donc, il faut quand même faire attention, et donc, si on a un partenaire ou une partenaire qu'on ne connaît pas bien ou qui a pris des risques, eh bien, en plus du préservatif, ben, faut garder le masque.
Ça fait... Faut garder le masque.
Bah oui, faut garder le masque. Bah oui, parce que si on a une partenaire, quand on fait l'amour, on est à quelques centimètres de sa partenaire ou de son partenaire, et donc il faut quand même faire attention.
On a vu cette information arriver il y a plusieurs semaines. On a pu lire beaucoup d'articles. On a aussi pensé que c'était, entre guillemets, une blague. Là, vous le réaffirmez, gardons le masque.
Mais non, on garde le masque quand on est dans ce studio, par exemple. On a retiré le masque parce qu'on est à 2 ou 3 mètres de distance. On serait plus près, j'aurais gardé mon masque, et vous aussi. Donc, imaginez qu'avec une partenaire ou un partenaire sexuel, on est quand même très proche. Et donc, si l'un des deux a pris des risques ou évolue dans un milieu où il a pu être contaminé, par respect pour son partenaire, il faut remettre le masque.
Voilà, le message est passé. Il n'y a pas 10 000 solutions, on l'a bien compris, pour éviter les IST. Le dépistage, c'est très important et le préservatif reste roi dans cette protection. Un préservatif, ça peut se déchirer, rarement, mais ça arrive. Ça peut aussi glisser à ce moment-là. Quel est le réflexe aussi ?
À ce moment-là, quand on est avec un ou une partenaire qu'on connaît pas bien, si c'est une partenaire de passage, il faut aller chez son médecin et se faire dépister en respectant les délais de dépistage, puisque autant pour une infection à gonocoque ou chlamydia, 2 jours après un rapport, on peut parfaitement se faire dépister. Pour la syphilis et le VIH, c'est par prise de sang et c'est beaucoup plus long, faut attendre au minimum 3 semaines, 1 mois.
Jean Vion est avec nous, Jean Vion à Brazzaville. Bonjour Jean Vion.
Bonjour.
Merci de participer à cette discussion, nous vous écoutons.
Ok, et donc je suis jeune de 24 ans à l'époque. Après donc un rapport sexuel avec une fille, quelques jours après, j'ai donc des brûlures, des picotements et au niveau des testicules. Mm-hmm. Et après donc des examens, comme a prescrit quelques produits, dont Zylorix, et le traitement que j'ai pris en vain malheureusement. J'ai encore tenté à plusieurs fois, toujours, d'aller m'examiner à l'hôpital, des examens toujours, et toujours en vain. Et donc aujourd'hui, 49 ans, soit 25 ans après, et je souffre toujours, je continue à souffrir des picotements et de la chaleur au niveau des testicules. Donc, voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Y a-t-il un traitement encore approprié ou comment? Et puisque je continue jusqu'à aujourd'hui à souffrir.
Docteur Bobot, Jean Rion vient de nous dire qu'il vient de passer plus de 20 ans avec ses picotements, ses brûlures aux testicules. Est-ce que ça vous évoque quelque chose?
Alors, ce qui m'évoque quelque chose, c'est qu'effectivement, on lui a donné du Zilorique. Le Zilorique n'est pas un traitement des maladies sexuellement transmissibles, c'est un traitement pour prévenir une maladie qui s'appelle la goutte, c'est-à-dire que dans les urines, il y a des cristaux d'acide urique qui peuvent se transformer donc en calcul et qui peuvent aussi provoquer donc la goutte, qui est une maladie qui donne des rhumatismes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a de l'acide urique, il y a des petits cristaux dans les urines et que ça peut donner comme ça, des brûlures qui soient au niveau du canal urinaire et parfois même avec des brûlures qui peuvent descendre jusqu'au niveau des testicules. Cependant, par sécurité, ça serait quand même bien, puisqu'il a surtout une localisation au niveau des testicules, qu'on fasse un examen de sperme, parce que quand on fait un examen d'urine, on n'a pas toujours la capacité de trouver des microbes, surtout s'ils sont situés au niveau des testicules. Donc, ça serait bien de faire un examen de sperme, vérifier s'il n'y a pas de microbes. Et si on ne trouve pas de microbes dans le sperme, c'est qu'effectivement, la cause de ces problèmes, c'est effectivement cet acide urique qui est probablement sous forme de cristaux dans les urines.
Jean Vion, vous avez entendu, il y a une consultation qui s'impose là.
Oui, donc le spermogramme alors.
C'est pas un spermogramme, c'est une spermoculture, c'est-à-dire que c'est pour chercher des microbes dans le sperme. Le spermogramme, c'est pour voir si vous êtes fertile. La spermoculture, c'est pour voir si vous avez des microbes dans le sperme. Et là, au moins, on aura les réponses et vous saurez tout de suite s'il y a une infection du testicule.
Oui.
Okay, Jean Vion, on vous souhaite bon courage.
Merci, madame.
Merci, merci à vous. Docteur Bobot, je ne vous apprends rien. Quand on est amoureux dans une relation a priori exclusive avec la fidélité, on a envie d'arrêter d'utiliser ce préservatif. Avec quelle modalité on peut le faire?
Ah bah bien sûr qu'on va pas passer sa vie sous latex, hein, on est bien d'accord.
Il s'agit de ça.
Donc, quand on a décidé de retirer le préservatif, on va tous les deux faire des tests. Alors les tests, je répète, chez l'homme, c'est extrêmement simple, hein, c'est une analyse d'urine et une prise de sang. Donc on ne fait plus les prélèvements catastrophiques, les tortures qu'on faisait avant, c'est-à-dire des prélèvements avec des cotons-tiges dans le canal urinaire. Donc on peut rassurer les messieurs, ça fait pas mal. Donc une analyse d'urine, une prise de sang. Et chez la femme, il faut faire un prélèvement gynécologique, hein, en particulier au niveau du vagin, et une prise de sang. Et puis, si on a eu des rapports qui sont des rapports ce qu'on appelle extra-génitaux, on peut faire un prélèvement au niveau de l'anus ou au niveau de la gorge. Mais en tout cas, quand on retire le préservatif, et avant de retirer le préservatif, tous les deux, on passe au dépistage.
Test, test, dépistage, et ensuite?
Et après, on retire le préservatif si tout va bien.
Si tout va bien. Les causes de l'augmentation des IST au sein de la population mondiale, on en a parlé, elles sont multiples. Le corps médical souligne notamment les effets inattendus du traitement préventif du VIH, PrEP, qu'on appelle PrEP. Ouais. Pouvez-nous en parler ?
Oui, alors c'est quelque chose qui est très intéressant pour éviter la contamination par le VIH, mais malheureusement, les patients qui prennent la PrEP ont tendance à ne pas se protéger. Parce qu'ils se disent, j'ai la PrEP, donc je vais pas attraper le VIH, donc j'ai pas besoin de mettre de préservatif. Et donc, on a une augmentation automatique des cas de gonococcie, d'infection à chlamydia, etc. Donc, encore une fois, la PrEP, c'est pas un laisser-passer pour faire n'importe quoi. La PrEP, c'est quelque chose qui permet de limiter le risque d'infection par le VIH. Ça n'a aucune action préventive vis-à-vis des autres maladies sexuellement transmissibles. Alors, effectivement, j'entends un certain nombre de gens, y compris des professionnels de santé, qui disent « Oui, mais la gonococcie, le chlamydia, ça se soigne ». Peut-être, mais les hépatites, il peut y avoir des conséquences dramatiques et le papillomavirus, ça tue. Donc, il est important de continuer à donner le message et à délivrer ce message. La PrEP, sûrement, mais plus le préservatif et les méthodes de prévention classiques.
Pas de relâchement dans les comportements sexuels, de la responsabilité. Docteur Bobot, l'un de vos confrères va se joindre à nous pour enrichir cette discussion. Il s'agit du professeur Traoré.
RFI à Ouagadougou. 94 FM.
Bonjour professeur Traoré.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Priorité Santé. Vous êtes chef du service dermatologie et vénérologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. Je fais les présentations. Vous l'avez très certainement entendu. Oui. À mes côtés, le docteur Bobot, qui est lui infectiologue et andrologue à Paris.
Exact.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, je vous laissais vous saluer, en fait.
Bonjour, bonjour.
Professeur Traoré, le Burkina Faso est doté d'un conseil national de lutte contre le sida et les IST, dont l'un des slogans est « Savoir, c'est pouvoir ». L'information comme arme de lutte, finalement, contre cette pandémie, parce qu'on peut aussi appeler ces IST une pandémie. Comment s'organise-t-elle cette information, cette prévention au Burkina Faso ?
Alors, je voudrais d'abord vous remercier parce que, comme l'a dit le docteur tout de suite, ce qui est extrêmement important, c'est de ne pas baisser la garde par rapport à la prévention. Alors, en ce qui concerne le Conseil national de lutte contre le VIH et le SIDA, l'information en ce qui concerne la prévention se déroule au niveau surtout de la communauté. Et la communauté, c'est bien sûr tous les agents de santé communautaire qui reçoivent une formation et qui doivent, en retour, aller donner l'information basique à la population. C'est également les agents de santé qui doivent, à chaque contact, non seulement parler du VIH, mais également parler, de la porte d'entrée du VIH, c'est une des portes majeures d'entrée du VIH qui constitue les IST, mais également c'est tous ceux qui ont de la voix, ceux qui ont de la voix et ceux qui ont une action sur la population. Les chefs coutumiers ont été formés pour sensibiliser, les associations ont été formées pour sensibiliser. Donc voilà. Tout ce monde-là, à l'occasion donc de la lutte contre le sida, on s'est rendu compte que c'était un bras extrêmement important pour sensibiliser et informer. Et chacun dans son domaine a un maillon d'information qu'il délivre. Et au finish, les populations qui ont contact avec ces différentes personnes ou ces différentes personnes qui ont l'obligation de travailler avec ces populations délivre en tout cas un paquet qui permet aux populations de connaître et bien sûr de prendre les dispositions pour la prévention.
On entend que beaucoup d'acteurs prennent part à la diffusion de cette information et à cette lutte. Quelles sont les IST les plus présentes aujourd'hui au Burkina Faso ?
Alors, je voudrais rappeler que le docteur l'a probablement dit, dans les pays en voie de développement, l'approche au point de vue notification et au point de vue manière de lutter se fait de manière spécifique. C'est ce qu'on appelle l'approche syndromique. L'approche syndromique, c'est qu'on identifie des syndromes qui permettent jusqu'à la base de regrouper un certain nombre d'IST et puis de donner, de délivrer des traitements. Je prends un exemple. L'un des syndromes majeurs que l'on traite, c'est l'écoulement urétral. L'écoulement urétral, vous savez, fait partie donc des grandes IST et on sait que dans cet écoulement, dans cette chaude pisse, il y a plusieurs germes qui peuvent entraîner cette chaude pisse-là. Donc, il y a des études qui sont menées par l'OMS pour identifier dans les pays les écoulements urétraux chez l'homme, quels sont les germes IST qui sont les plus fréquents. Et quels sont les médicaments auxquels ils sont sensibles? Et l'OMS fait la proposition aux différents pays. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à déterminer les étiologies un peu partout et que les IST, malheureusement, se trouvent partout. Et c'est là où même on n'a pas de laboratoire et ça risque de faire très mal. Je vous propose donc de leur donner tel médicament parce que ça va aller lutter contre tel germe. Mais l'OMS rappelle que l'étude régionale, l'étude mondiale qui a donné cette orientation impose que les pays ou les groupes de pays fassent leur propre expérience pour adapter ce que l'OMS propose. Et que cette proposition-là, on puisse la réviser tous les 3 ou 4 ans parce qu'on pense que la science évolue, la sensibilité des germes, par exemple, peuvent changer au bout de 2 ou 3 ans et à chaque fois, on redonne toujours quelque chose de véritablement scientifique, de bien expliquer pour que les professionnels de la santé, et les agents communautaires de santé puissent proposer des traitements. Voilà comment on traite donc les IST dans les pays et comment on les notifie. Donc, pour revenir à la question, au Burkina Faso, il n'y a que quelques laboratoires qui peuvent vous dire, ouais, on a vu deux gonocoques, on a vu un chlamydier là, mais globalement, le ministère va simplement dire, voilà, on a autant d'écoulements vaginaux, autant d'écoulements urétraux. Donc, les plus fréquents que l'on retrouve dans nos, au Burkina et pratiquement dans la sous-région, c'est que les écoulements vaginaux constituent l'une des IST les plus fréquentes, des syndromes IST. Ensuite vient l'écoulement urétral chez l'homme. Ça, c'est également un syndrome IST qui est assez fréquent. Et troisièmement, on pourrait citer l'ulcération génitale qui constitue également un des syndromes IST que l'on rencontre assez souvent dans nos régions. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette question.
Professeur Traoré, cette question, je vous la pose aussi à vous, docteur Bobot. La honte, le malaise est souvent un frein pour consulter. Professeur Traoré, comment, quel message pouvez-vous faire passer pour mettre à l'aise nos auditeurs avec cette consultation?
Alors, je pense que c'est là véritablement que la formation et le professionnalisme deviennent des éléments extrêmement importants. Et bien sûr, la culture, parce que tout est, à mon avis, un fond culturel extrêmement important. Donc, je pense que ce que nous faisons au moment des formations et des étudiants à la base et au moment des formations concernant véritablement les IST, nous apprenons aux professionnels donc, de santé que la première bataille à gagner, c'est bien sûr, et tous les soignants, hein, c'est la confiance donc du patient, et c'est la mise à l'aise du patient, c'est le temps qu'il faut donner au patient, et on a donné le temps, on a pris suffisamment de temps pour expliquer, et en ce moment, ce patient-là devient un relais, et de bouche à oreille, il va aller dire aux gens, vous pouvez aller parce que j'avais un problème au niveau génital, quand je suis allé, il n'y a pas eu de moquerie, on m'a discrètement vu, et bien sûr, examiner les gens dans des conditions où on respecte l'homme tout court. Donc voilà, à mon avis, et c'est ce que nous disons, les éléments importants pour pouvoir donc faire venir les gens en consultation malgré cette honte qui persiste. Alors, je voudrais ajouter que la lutte contre le VIH est venue également apporter une note positive puisque vous voyez cette discrimination, cette honte de plus en plus, quand on a eu des médicaments pour lutter contre le VIH, la population a commencé à comprendre que même si c'est sur les parties génitales, il vaut mieux que vous montrez pour qu'on puisse vous traiter.
Docteur Bobot, souhaitez-vous compléter?
Oui, mais je pense que ce qu'a dit le professeur Traoré s'applique sur le monde entier, c'est-à-dire que il faut surtout ne plus stigmatiser ces infections. Avant, on appelait ça les maladies honteuses. Il s'agit d'infections comme les autres. La fonction sexuelle est une fonction normale, c'est une fonction physiologique. De même que quand on mange un plat qui est pas tout à fait net, eh ben on peut attraper une infection digestive. Eh bien, au niveau sexuel, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas stigmatiser et il faut respecter effectivement la sexualité de chacun, et c'est uniquement dans ce contexte-là que l'on arrivera effectivement à combattre ces infections. Et je voudrais rajouter ce qu'a dit le professeur Traoré est tout à fait juste, c'est que l'approche syndromique, c'est-à-dire expliquer quels sont les symptômes d'alerte, ça s'applique pas simplement dans les pays en voie de développement.
Et ce sera le mot de la fin.
Oui, oui, mais aussi dans les pays développés, il faut simplement donner aux patients les clés pour aller consulter au plus vite.
Merci professeur Traoré, je rappelle que vous êtes chef de service dermatologie et vénérologie à Ouagadougou. Merci docteur Bobot, je rappelle que vous êtes infectiologue et andrologue à Paris.
Delícia de ver. beijo. Eu isso de ter muito beijador. Avisa pra geral da boemia, meu diz que é uma maioria que eu saí do mercado. Menina que me traz desejo, seu beijo me deixa chapado. É tipo aqueles isso bem de triste de parar que você não devia ter começado. Faz um zum 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 zum. Ela derruba É daquelas que para pique o baile inteiro. Meu coração dispara. Cupido foi sem ter. Menina que delícia de beijo. Perícia de ter muito beijador. Avisa pra geral da boemia. Meu esquema maioria que eu saí do mercado. Menina que me traz desejo, seu beijo me deixa chapado. É tipo aquele vício bem difícil de parar que você não devia ter começado. Ela derruba Ela me viu se abrir.
Merci à vous, chers auditeurs. À l'instant, Raël avec Beijo. Je vous dis merci pour la confiance et ces bouts de vos histoires parfois intimes que vous partagez avec nous. Merci à l'équipe pour la préparation de cette émission. À C'est tous à Maquet, Ophélie Lassen, Louise Calédec, Didier Bleu, notre réalisateur, Laurence No. Demain, notez bien, nous ouvrons une nouvelle discussion sur le bégaiement. Si vous souhaitez y prendre part, le 00 33 1 84 22 75 75. Prenez soin de vous et sortez masqué.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.